dans son repos. Voilà le livre. Et puis, si je regarde à la page 99 de ce livre, un petit texte. Il te promet l'amour sans jamais te se rétracter. Il te promet d'entrer dans une nouvelle réalité. Il te promet de vivre avec lui pour l'éternité. Il te promet de toujours t'accompagner. Il te promet que sur toi, toujours, il va veiller. Il te promet pas la lune, mais sa lumière pour t'éclairer. Il ne te promet pas que tes problèmes vont s'envoler, mais qu'il va t'aider à les traverser. Je pense que quelques-uns ont eu ce passage à la nouvelle année. Des textes que Laetitia a écrits pendant qu'elle était dans cette convalescence. Dans son repos. Et moi, je me suis posé la question, quand j'ai vu le titre de ce livre, et je me suis dit, mais c'est quoi le repos? Est-ce que nous savons bien de quoi il s'agit lorsque nous parlons du repos? Alors, il y a des textes qui nous disent et qui nous parlent de ce repos. Est-ce que vous en connaissez? Un texte qui va nous parler du repos? Allez, dites-moi. Généralement, ceux qui sont dans le fond, tout près du radiateur, ce sont les cancres. Allez, pasteur, dis-moi. Alors, Matthieu 11, 28, est-ce que quelqu'un sait de quoi il s'agit? Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Waouh! Un texte de l'Évangile. Mais, traditionnellement, on prend un texte du l'Ancien Testament et aussi un texte des Épîtres. Alors, quelqu'un pourrait me dire un texte de l'Ancien Testament? Super. Et vous n'êtes pas pasteur? Ben, on ne sait jamais, hein. Le septième jour, Dieu se reposa. Est-ce que vous avez une idée où on parlerait de repos dans les Épîtres? Alors, celui-là, c'est généralement pas un auteur que l'on va lire régulièrement, parce qu'il est plus compliqué que les autres. C'est lequel? Allez, je vous donne un indice quand même, hein. Quelle est l'épître la plus compliquée, pas difficile, mais compliquée à comprendre? C'est l'épître aux Hébreux. Et dans le chapitre 4 de l'épître aux Hébreux, eh ben, effectivement, l'auteur de cette épître nous dit ceci. Craignons donc, tant que la promesse d'entrer dans son repos subsiste, que personne parmi vous ne pense être venu trop tard. Voilà les textes sur lesquels on va revenir, hein. On va parler. Le repos. Shabbat Shalom. Généralement, c'est comme ça que se saluent les Juifs lorsque le vendredi, ils se quittent avant de se retrouver à la synagogue. Shabbat Shalom. Shabbat, c'est le repos. Et j'ai traduit un peu différemment shalom, je l'ai traduit par bien-être, parce que c'est un petit peu trop simple que de le traduire par paix. Un temps de repos pour être bien. Et la question de beaucoup de rabbins a été celle-ci, mais en fait, que fait Dieu dans son repos? Effectivement, dans le livre de la Genèse, au chapitre 2 et les versets 2 et 3, Moïse nous dit ceci, « Ainsi furent achevés le ciel et la terre et toute leur armée. Le septième jour, Dieu avait achevé tout le travail qu'il avait fait, et le septième jour, il se reposa de tout le travail qu'il avait fait. » Waouh ! Super, un repos. On arrête le travail et on ne fait plus rien. Est-ce que c'est ça que Dieu a fait? Dieu bénit le septième jour et en fit un jour, dit la Nouvelle Bible Second, moi j'aime pas beaucoup ce terme, sacré, consacré, oui, car en ce jour Dieu se reposa de tout le travail qu'il avait fait en créant. Septième jour est un jour où, quelque part, Dieu est celui qui contemple ce qu'il a fait et qui se réjouit de ce qui a été créé. Six jours de création, septième jour de repos. Ce qui a été créé est de l'ordre d'un faire, d'un travail. Mais alors, c'est quoi le repos? Que dire du repos? Se reposer, c'est la jouissance, la jubilation de contempler ce qui a été créé. C'est ce qui ressort de Genèse chapitre 2. Mais n'est-ce que jouissance? Et n'est-ce que contemplation? Est-ce que Dieu s'est simplement, depuis pas mal de temps, est-ce que Dieu est en train de contempler en disant « c'est très bon, c'est très bon, c'est très bon, c'est très bon, c'est très bon ». Ça, c'est la grande question rabbinique. Qu'est-ce que Dieu fait dans son repos? Alors, je voudrais vous apporter une réponse ce matin, une réponse parmi d'autres. C'est pas la seule réponse, hein. Mais une réponse parmi d'autres qui, quelque part, pourrait nous dire, nous donner une piste en tout cas, sur ce que Dieu fait. Quand j'ouvre les évangiles, chaque évangéliste a rattaché son évangile à l'Ancien Testament d'une manière ou d'une autre. Chacun un petit peu à sa façon. Car en fin de compte, il fallait raconter l'histoire de Jésus, mais comment la rattacher avec ce qui précédait, la Torah, les psaumes, les prophètes et les livres poétiques. Si je vous dis Matthieu, comment est-ce que Matthieu rattache son évangile à l'Ancien Testament? Alors ça, le mieux, c'est toujours d'ouvrir votre Bible et de consulter ce qui est au départ de Matthieu chapitre 1. Hein? Alors si vous avez une Bible, ouvrez-la. Maintenant, avec les PowerPoint, on ne s'enquiert plus beaucoup de la Bible. Ma belle-fille, elle a un smartphone. Exceptionnel. Moi, je reste pour le papier. Hein? Richard et Catherine, je reste pour le papier. Matthieu, dans son évangile, il va le rattacher et il va dire « Jésus est le Messie qui est attendu par Israël ». Pourquoi? Parce que Matthieu est juif. Et qu'il s'adresse à une communauté de juifs. Et ce qu'il veut dire et communiquer, c'est quoi? Eh ben, ce que Israël attend, le Messie qu'Israël attend, eh ben, effectivement, c'est Jésus. Qu'en est-il de Marc? Si vous allez chez Marc, Marc va commencer son évangile de tout à fait autrement que Matthieu. Il n'y aura pas les mages, il n'y aura pas de naissance chez Marc. On rentre plein dans le sujet. Et que dit et proclame Marc à propos de Jésus? Quelqu'un a une idée? Alors, pour Marc, c'est très clair, d'emblée, sans essayer même de le justifier, Jésus, ça c'est la révélation, est le Fils de Dieu. Chez Luc. Alors, Luc, il est spécial, Luc, parce que Luc, lui, bah, c'est un étranger. C'est un grec. Et il écrit plutôt pour des Grecs. En fin de compte, qu'est-ce qu'il va faire? Il va être le témoin de l'histoire. Théophile. Voilà comment les choses se sont passées. Et ça va être le témoin d'une histoire. Et puis Jean. Comment est-ce que Jean rattache son évangile à ce qui était avant? Ah, tiens donc. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Au commencement. Ce mot-là me dit quelque chose. Ce n'est pas au hasard. Sauf si vous écrivez hasard avec un grand D majuscule, hein? Alors là, mais sinon, au commencement, ça vous dit quoi? Ça vous parle quoi? Mais précisément des premiers mots de la Genèse. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Tiens, on retourne à la création. On retourne au début. Est-ce que, en fin de compte, chez Jean, on aurait peut-être la réponse par rapport à qu'est-ce que Dieu peut faire dans son repos? Eh ben, je voudrais tout simplement m'étonner avec vous et voir ce que comment se compose, comment s'articule la pensée de Jean? Alors, chez Jean, quand vous entrez dans l'évangile de Jean, vous avez ce que moi j'appelle un portique. Vous connaissez cette maison? C'est? Alors, c'est un hymne. J'ai hésité entre vous la présenter nu sans personne ou avec une personne que je connais bien, qui fait que le monument est vachement plus beau que... Mais si, mon cher. La maison carrée de Nîmes, en fait, dans les constructions anciennes, il y a, et dans les temples, il y a comme cela un portique d'entrée, quelque chose qui nous interpelle et qui nous permet de et nous invite à entrer. Eh ben, le porche d'entrée de l'évangile de Jean, c'est le prologue. Ce que l'on appelle donc le prologue, qui va de chapitre 1, verset 1 à 18. Et pourquoi est-ce qu'on le coupe là? Mais tout simplement parce que voilà. C'est après cela, ce prologue, que Jean va commencer à nous parler du ministère de Jésus. Et il ouvre ce ministère par un mot. Voici. Vous savez, quand vous voulez interpeller quelqu'un et que vous voulez capter son attention, vous allez essayer, d'une manière ou d'une autre, d'introduire ce que vous avez à dire. Voici le témoignage de Jean lorsque les Juifs lui envoyèrent de Jérusalem les prêtres et les Lévites pour lui demander « Toi, qui es-tu ?» Alors la réponse de Jean est assez étonnante, car moi je suis celui qui suis, à moins que vous ne me connaissiez en étant le mari d'Anne-Marie, hein, ça c'est possible, mais en fin de compte, lui, il va dire, je ne suis pas, et il démarre, je ne suis pas le Messie, je ne suis pas le Christ. Je ne suis pas celui que vous attendez. Mais tout en disant cela, il va automatiquement orienter notre réflexion vers autre chose. Il ne peut pas y avoir chez Jean de confusion. Confusion entre Jean-Baptiste et celui que Jean-Baptiste doit annoncer. Est-ce que vous permettez que on dise jour 1? Ça, c'est comme si c'était là le premier jour. Qu'est-ce qui me fait dire ça? C'est que au verset 29, voilà un autre mot qui revient. Le lendemain, donc on a été le premier jour, on est dans un deuxième jour. Et le deuxième jour de l'ouverture du ministère de Jésus, Jean-Baptiste le bien-nommé vient à dire, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Lorsque il dit cela, il mentionne aussi l'Esprit Saint. Jésus est désigné par Jean et Jésus est le Fils de Dieu. Pourquoi est-ce que je parle de l'Esprit Saint? Parce que si vous regardez bien Genèse 1, l'Esprit de Dieu planait au-dessus des cieux. Et Jean, l'évangéliste, reprend les éléments qui se trouvaient dans le livre de la Genèse. C'est le deuxième jour. Est-ce que quelqu'un est déjà passé par l'Alsace, s'est arrêté à Colmar, au musée Unterlinden, pour aller voir ce grand retable de d'Isenheim, de Matthias Grunewald? Alors Matthias Grunewald est un peintre à la fin du Moyen-Âge qui peint un petit peu comme Jérôme Bosch, et il peint un Christ crucifié, mais ce qui m'intéresse, moi, c'est, en fin de compte, le personnage de Jean-Baptiste. C'est lui, l'agneau de Dieu. Et quand vous regardez la grandeur de Jésus, il est difforme. Difforme par rapport à Jean et Marie, difforme par rapport à Jean-Baptiste, qui sont nettement plus petits que lui. Ah, je reviens à l'évangile de Jean, verset 35. Le lendemain, ah ben là, on avance, hein. Voici le lendemain, troisième jour, Jean était de nouveau là, avec deux disciples, et deux disciples de ses disciples, à qui il va désigner Jésus en disant, lui, c'est l'agneau de Dieu. Ce qui va faire que, en fin de compte, les deux disciples qui étaient des disciples de Jean-Baptiste vont devenir les disciples de Jésus. Et notamment, le disciple bien-aimé, c'est-à-dire Jean lui-même. Le groupe des disciples se forme. On s'organise. Et si vous regardez bien la Genèse, mais il faudrait le temps de le faire, dans le livre de la Genèse, il y a aussi une organisation des éléments. On sort constamment de ce qui est dans le chaos pour entrer dans quelque chose d'organisé. 2 + 1, ça fait 3. Jour 3e. Tiens donc. Le lendemain, ça c'est le verset 43, Jean a de nouveau ce mot qui rythme cette semaine. Il voulut se rendre en Galilée, et donc c'est de Jésus dont il parle, il trouva Philippe et Jésus lui dit, suis-moi. Donc c'est un appel à le suivre, c'est un appel à devenir témoin de Jésus-Christ et à prendre donc sa suite. 3 + 1, ça fait combien? 4. Ah ben dis donc, vous avez fait maths sup là, hein? Maternelle supérieure, hein? D'accord? Vous êtes à 4, hein? Alors retenez 4 sur vos doigts. Ça va? 4 sur tes doigts? Ok? Ça marche? Parce que là, on va faire un grand saut, hein? On va quitter maths sup et on va entrer en primaire. Le 3e jour. 4 et 3, ça fait combien? Ça fait 7. Dis donc! Même dans le Brabant wallon, ça fait 7. Eh ben, chez moi aussi. 4 et 3, ça fait 7. Nous trouvons, paradoxalement, un 7e jour, fin de semaine. Tiens donc, on parlait de tout à l'heure, qu'est-ce que Dieu fait dans son repos. 7e jour, eh ben, on va voir ce qu'il fait le 3e jour. Le 7e jour. Jean commence par ce petit mot. Le 3e jour, il y eut des noces à Cana de Galilée. La mère de Jésus était là. Troisième jour, vous trouvez cela dans le livre de l'Exode, au chapitre 19, si vous lisez les versets 11 et 10 et 11 et verset 16, vous allez trouver la mention du 3e jour. Qu'est-ce qui se passe le 3e jour dans le livre de l'Exode? Le Seigneur dit à Moïse, va vers le peuple, consacre-le aujourd'hui et demain, qu'ils lavent leurs vêtements, qu'ils soient prêts pour le 3e jour, car le 3e jour, le Seigneur descendra sous les yeux de tout le peuple, sur le mont du Sinaï, le 3e jour, au matin, il y eut des coups de tonnerre. 3 fois, Moïse répète, le 3e jour. Et le 3e jour, qu'est-ce qui arrive dans les livres de l'Exode? Il y eut des coups de tonnerre, ce qui veut dire qu'en fait compte, Dieu se révèle. Dieu révèle qui il est. C'est le moment où il manifeste ce qu'il est, il se révèle. Il se glorifie. Il se glorifie. Tiens donc, Ça, c'est intéressant. Car en fin de compte, si le troisième jour est le jour de la révélation, de la manifestation de sa gloire, l'apôtre Paul va utiliser aussi le mot troisième jour. Et notre pasteur nous l'a rappelé tout à l'heure. Nous sommes encore toujours dans le temps de la résurrection. Et où l'apôtre Paul va dire ceci dans l'épître aux Corinthiens, il a été enseveli, il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. Une série de versets où vous pouvez retrouver cette notion du troisième jour, jour de la révélation, jour de la résurrection, de la manifestation de la puissance, la manifestation de la gloire de Dieu, Jésus, celui que l'on a mis au tombeau, il est sorti du tombeau, il est vivant. Amen. En fait, le septième jour, selon l'évangile de Jean, que fait Dieu? Il manifeste sa puissance, se révèle à nous et il démontre qu'il est celui qui a toute puissance. Et ça, il dit aussi quelle est sa préoccupation. Et sa préoccupation, c'est le salut. C'est le salut, et c'est comme cela qu'en fin de compte, Jean en arrive à dire l'Ancien Testament prépare cette révélation-là. Jésus est celui qui nous sauve. Le troisième jour, il y eut des noces à Cana de Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus aussi fut invité aux noces, ainsi que les disciples. Comme le vin venait à manquer, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont pas de vin. » Jésus lui répond, « Femme, qu'avons-nous de commun dans cette affaire ? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur, « Faites tout ce qu'il vous a dit. » Sous tout ce qu'il vous dira, il y avait là 6 jarres de pierre destinées aux purifications des Juifs, contenant chacune 2 à 3 mesures. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces jarres. Ils les remplirent à ras-bord puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'organisateur du repas. Ils lui emportèrent. Quand l'organisateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, il ne savait pas d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient. Il appelle le marié et lui dit, « Tout homme sert d'abord le bon vin, puis, quand les gens sont ivres, le moins bon, toi tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » Tel fut le commencement des signes de Jésus. Ce qu'il fit à Cana de Galilée, il manifesta sa gloire et ses disciples mirent leur foi en lui. Comme le vin venait à manquer, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont pas de vin. » Et Jésus répond à sa mère, « Femme, qu'avons-nous de commun en cette affaire ?» J'ai repris la traduction de la Nouvelle Bible Seconde parce qu'elle est un peu plus rude que les autres et elle traduit beaucoup mieux l'esprit même du texte. « Mon heure n'est pas encore venue. » Dans cette réponse, il y a 2 choses. La première réponse, « Qu'y a-t-il entre toi et moi ?» Eh bien cela, vous allez le trouver dans 2 textes bibliques, un dans l'Ancien Testament et un dans le Nouveau Testament. 1 roi 17, c'est la veuve de Sarepta qui accueille Élie et lui dit, mais tu viens et tu veux manger chez moi, et mon fils alors. Qu'est-ce qu'il y a entre toi et moi? Elle est en opposition par rapport à Élie. En fin de compte, elle en arrivera à dire, ok, mets-toi à notre table. Mais il y a l'opposition entre cette mère et le prophète envoyé. Dans l'évangile de Marc, c'est un petit peu différent. Ce sont les démons qui interviennent et qui prennent la parole en disant, qu'est-ce qu'il y a entre toi et nous? Eh ben oui, effectivement, il y a une opposition. Mais donc chaque fois, c'est celui qui est hostile aux serviteurs de Dieu. Ici, c'est Jésus qui, quelque part, montre qu'il y a une distance entre sa mère et lui, car en fin de compte, il y a une chose qu'elle n'a pas et qu'elle n'a pas encore réalisée, c'est qui est Jésus. La deuxième, c'est que, en fin de compte, il va parler de l'heure. Et dans tout l'évangile de Jean, il va toujours y avoir cette heure. Mon heure n'est pas encore venue jusqu'au moment où, au chapitre 13, là, il va dire, quand Jésus sut que son heure était là, et c'est alors qu'il mit son amour à son comble. C'est le passage du lavement des pieds. Parce que c'est le dernier acte qu'il va faire avant la croix. Jésus, là, révèle qu'il est venu pour cette heure-là. Il est venu pour la croix. Il est venu pour donner sa vie, afin de réconcilier le monde avec le Créateur, de nous réconcilier nous avec celui qui nous a donné la vie. Une jarre, deux jarres, trois jarres, quatre, cinq, six. Six jarres, il y avait là six jarres de pierre destinées aux purifications des Juifs, contenant chacune deux à trois mesures. Des jarres qui, en fin de compte, ne servaient que pour se purifier les mains et le visage. Et c'est important d'entendre la purification des Juifs. C'est aussi important de savoir six. Six, c'est quel? Il y a une symbolique du chiffre six dans la Bible. Six, c'est quel chiffre? Quel est le symbole du nombre six? Oui, c'est le chiffre de l'homme. Six, c'est le chiffre imparfait. C'est ce qui n'est pas complet. Car sept sera le chiffre parfait. Six est toujours le chiffre imparfait. Et donc, qu'est-ce qu'on nous dit ici? C'est que la purification des Juifs est une purification imparfaite. Par contre, quand on voit la démesure du nombre d'eau qui ont été transformées en vin, là, on est quelque part dans quelque chose d'invraisemblable, puisque on est quelque chose qui dépasse l'entendement. Tout homme sert le bon vin, et puis, quand les gens sont ivres, le moins bon, toi tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. nous arrivons à la fin. La fin où on va commencer à comprendre qu'une purification meilleure va être offerte. Et la purification meilleure, c'est quoi? C'est le sang de Jésus. Le sang de Jésus qui va, en fait compte, nous purifier. Pourquoi le sang? Tout simplement parce que, en fait compte, tout péché devait être condamné par la mort. C'est ce qui est dit dans le livre de la Genèse. La mort qui est tombée sur nous à cause de notre désobéissance, à cause de notre rébellion. Pécheur honnête ou pécheur scandaleux, c'était une expression d'antan que l'on entendait souvent dans le borinage. Nous sommes tous pécheurs, car tous nous avons été rebelles à l'amour de Dieu. Qui que nous soyons, quoi que nous ayons fait, nous avons tous besoin d'être réconciliés avec notre Dieu. Et Dieu a donné et a payé le prix de cette réconciliation. Car en fin de compte, la mort qui devait me toucher, moi, à cause de mes rébellions, elle est tombée sur Jésus. Lui qui est innocent, lui qui n'a pas fait de péché, c'est lui qui prend sur lui toute la colère de Dieu qui m'était destinée. Et dans son amour, il me donne sa justice alors que lui était juste et moi injuste, il me transfère sa justice. Et aujourd'hui, je suis justifié. Est-ce que tu es justifié? Est-ce qu'aujourd'hui, tu peux dire, je suis sauvé? À tout à l'heure, on a dit, Jésus est au milieu de nous. Et on a arrêté après deux strophes, on n'a pas chanté la troisième. Je veux vous sauver tous. Eh ben, c'est le désir de Dieu qui est là et qui se trouvait dans cette troisième strophe. Jésus est là pour nous sauver. Qui que nous soyons, nous savons qu'un jour nous allons devoir fermer les yeux sur ce monde. La mort, elle peut intervenir à n'importe quel moment. Il n'y a pas d'âge pour mourir. Vous n'avez qu'à une chose, vous faites un jour et vous faites nommer aumônier de l'hôpital des enfants à Bruxelles et vous allez voir que même il y a des enfants qui meurent. Et que moi j'ai accompagné des enfants qui, en fait, compte quand on est enfant, quelque part, on accepte plus et mieux la notion de fermer les yeux sur ce monde et de l'ouvrir sur l'autre. Mais plus on avance, plus on progresse, plus on a des attaches, plus on a envie de rester attaché sur cette terre. Mais en fin de compte, ce n'est pas notre destin. Notre destin à nous, c'est la vie éternelle. Notre destin, c'est de vivre dans l'éternité avec Dieu, mais c'est à nous à choisir aujourd'hui. Et l'Épître aux Hébreux le dira très bien. Aujourd'hui est encore un jour du salut. Aujourd'hui, nous avons encore la possibilité d'entrer dans ce salut. Nous avons encore la possibilité aujourd'hui d'accueillir Jésus dans nos vies. Et l'Épître aux Hébreux le dire, ne soyez pas rebelles. Ne soyez pas rebelles à cette invitation. Et je crois qu'aujourd'hui encore nous sommes et nous devons nous situer dans cette histoire. Jean reprend tout depuis le départ, le projet de Dieu. Si vous existez sur terre, c'est parce que Dieu veut vous sauver. Parce qu'il veut manifester sa gloire, il l'a fait à la croix, mais il veut encore aujourd'hui changer ta vie. Manifester sa puissance dans ta vie en la ramenant d'entre les morts pour te faire vivre. Parce que, en fin de compte, dans l'évangile de Jean, c'est clair, celui qui n'a pas Jésus dans sa vie, il est mort. Mais quand nous accueillons Jésus dans notre vie, nous passons de la vie, de la mort, à la vie, sans passer par le jugement. C'est ma situation aujourd'hui. Est-ce que c'est ta situation aujourd'hui? Dieu t'appelle. Ne sois pas rebelle. N'endurcis pas ton cœur, comme les Juifs l'ont fait à ce moment-là, comme les nations l'ont fait en ce temps-là. Aujourd'hui est encore un jour où nous pouvons nous tourner vers Dieu. Nous allons nous lever. Tu nous invites, Seigneur, à entrer dans ton salut. Tu nous invites encore, Seigneur, à ouvrir pour tu veux ouvrir pour nous les portes largement afin que nous entrions dans tes parvis, que nous entrions dans la vie avec toi et que nous ayons l'assurance de notre salut. Seigneur, tu as payé le prix. Lorsque l'on se pose la question, mais Dieu s'est-il reposé, il s'est arrêté de rien faire? Non, tu as travaillé et tu as continué à œuvrer en sorte que la création tout entière connaisse la possibilité en Jésus d'être sauvée. Seigneur, nous voici devant toi encore aujourd'hui. Seigneur, ce qui est le bien le plus précieux, comme disait Laetitia tout à l'heure, c'est le salut qui est intervenu dans ma vie, qui a changé, qui a bouleversé ma vie, qui a fait de moi un autre homme. Et aujourd'hui, pas à pas, je veux te suivre. Si aujourd'hui, tu n'as pas encore accepté Jésus dans ta vie, aujourd'hui est encore un jour possible. Réponds tout simplement à l'amour de Dieu en disant, Seigneur, je ne te connais pas bien. Je ne t'ai pas encore découvert. Je ne sais pas qui tu es. Mais moi, je veux vivre. Et je veux vivre avec toi pour l'éternité. Je viens à toi, Jésus. Viens, Jésus, ce matin. Il comblera ta vie et te permettra de continuer ton pèlerinage sur terre. Et pour nous tous qui avons cette certitude du salut, aujourd'hui nous devons être convaincus encore et nous accrocher à cette promesse que rien ne pourra nous enlever ce qui nous a été donné. Ni la teigne, ni la rouille ne pourra nous arracher le trésor que nous avons dans le ciel, le salut glorieux qui nous attend. Seigneur, béni sois-tu pour ce jour et manifeste encore ta puissance, Seigneur, aujourd'hui. Transforme et continue à nous transformer pas à pas dans l'attente de ton règne, de la venue en gloire de Jésus, celui qui est ressuscité et qui revient bientôt. Seigneur, nous t'attendons. Amen.